Quand j'ai entrepris de guider l'humanité sur mon sentier d'or, je lui ai promis une leçon dont ses morts se souviendraient. J'ai connaissance d'un schéma profond dont les humains nient l'existence dans leurs paroles tout en la confirmant dans leurs actes. Ils disent rechercher la sécurité et le calme, cet état de choses qu'ils appellent la paix. Mais en même temps qu'ils parlent, ils disséminent les graines du désordre et de la violence. Et s'il leur arrive d'atteindre leur fameuse sécurité tranquille, ils s'y contorsionnent désespérément, prisonniers d'un incommensurable ennui. Regardez-les donc. Voyez à quoi ils s'occupent pendant que j'enregistre ces paroles. Je leur ai donné des millénaires d'une tranquillité forcée qui persiste, malgré tous les efforts qu'ils font pour retomber dans le chaos. Croyez-moi, le souvenir de la paix de l'étau les marquera à jamais. Après cette leçon, ils ne rechercheront plus leur sécurité tranquille qu'avec d'infinies précautions et une préparation soigneuse. Les mémoires volées. Bien contre son gré, Idaho se retrouva à l'aube en compagnie de Siona à bord d'un ornithoptère impérial qui les conduisait en lieu sûr. L'appareil plongeait vers l'est, en direction d'un arc de lumière dorée qui baignait un paysage de vertes plantations rectangulaires et régulières. C'était un gros orni, capable de transporter à l'aise le petit détachement de Truites et leurs deux invités. Le pilote commandant, une femme athlétique dont Idaho, en voyant son visage, aurait pu croire sans peine qu'elle n'avait jamais souri, leur avait dit s'appeler Inmeir. Elle occupait le siège de pilotage juste devant Idaho, flanquée de part et d'autre d'une truitesse musclée. Cinq autres gardes étaient assises derrière Siona et Idaho. « Dieu m'a donné l'ordre de vous éloigner de la cité », avait dit Inmeir en venant le chercher au poste de commandement situé sous la place centrale. « C'est pour votre sécurité. Nous serons de retour demain matin pour le Cyanoc. » Idaho, fatigué par une nuit d'alerte, avait senti qu'il eût été futile de discuter les ordres de Dieu lui-même. Au demeurant, Inmeir semblait parfaitement capable de le soulever de terre d'un seul de ses énormes bras. Elle l'avait conduit dans la nuit glacée, constellée d'astres qui brillaient comme les facettes brisées de milliers de diamants. Ce n'est qu'en atteignant l'orni et en apercevant Siona à l'intérieur que le Duncan avait commencé à se poser des questions sur les véritables raisons de cette sortie. Pourtant, au cours de cette nuit, il s'était rendu compte que les rebelles et leur organisation n'étaient pas responsables de toute la violence qui s'était déchaînée à Hohn. Et quand il avait demandé des nouvelles de Siona, Moneo lui avait fait dire qu'elle ne risquait rien, car elle était en lieu sûr. Et il avait ajouté à la fin du message « Je la confie à vos bons soins ». Idaho aurait dû comprendre. À bord de l'orni, Siona avait refusé de répondre aux questions du Duncan. En ce moment même, elle observait à côté de lui un silence renfrogné. Elle lui rappelait l'époque amère où il avait juré de se venger, mais aider Harkonnen. Cette amertume l'intriguait. Qu'est-ce qui motivait Siona exactement? Sans savoir pour quelle raison, il se trouva en train de la comparer avec Hui Nori. Il n'avait pas été facile de rencontrer l'ambassadrice des Ixiens, mais il s'était arrangé pour le faire malgré l'insistance des truitesses à l'écarter d'elle sous différents prétextes. Douce était le mot qui convenait le mieux pour décrire Hui. Chacune de ses paroles, chacun de ses gestes semblait provenir d'un immuable fond de douceur qui constituait en soi quelque chose d'extraordinairement puissant. Il trouvait cela particulièrement attirant. Il faudra que je réussisse à la voir plus souvent. Pour le moment, il n'avait pour compagnie que la taciturne et maussade Siona, assise à côté de lui. Mais puisque c'était comme ça, au silence répondait le silence. Il regarda par le hublot le paysage qu'il survolait. Ça et là, les lumières agglutinées d'un village luttaient avec l'aube naissante. Ils avaient laissé loin derrière le désert du Sarir. Il était difficile de croire que les étendues verdoyantes qu'il contemplait avaient été un jour des terres desséchées. Il y a certaines choses qui ne changent guère, se dit-il. Elles sont simplement déplacées pour être reconstituées ailleurs. Ce paysage lui rappelait les jardins luxuriants de Caladan, et il se demanda ce qu'était devenue la planète verte où les Atréides avaient vécu durant tant de générations avant de s'établir sur Dune. Il distinguait des voies de communication étroites, des routes marchandes fréquentées à intervalles réguliers par des véhicules que tiraient des animaux à six pattes, sans doute les fameuses cavales. Moneo lui avait expliqué que ces cavales, adaptées au terrain, étaient les bêtes de somme les plus utilisées non seulement ici, mais dans tout l'Empire. Une population à pied est plus facile à contrôler. Les paroles de Moneo résonnaient dans la mémoire du Duncan tandis qu'il se penchait pour regarder par le hublot. Des prairies apparurent au devant de leur nid, vertes et vallonnées, irrégulièrement morcelées par des murets de pierre noire. Idaho aperçut des moutons et plusieurs sortes de bestiaux plus gros. Leur nid survola ensuite une étroite vallée encore dans la pénombre qui permettait à peine de distinguer le cours d'eau qui coulait tout en bas. Une lumière isolée et un filet de fumée bleuâtre étaient les seules traces de présence humaine. Siona s'anima soudain et tapa sur l'épaule de leur pilote en désignant un point situé devant et à droite de l'appareil.
« N'est-ce pas Goygoa là-bas » demanda-t-elle.
« Oui, » répondit sans se tourner Inmeir d'une voix étrangement altérée, empreinte d'une émotion que le Duncan fut incapable d'identifier.
« Est-ce un endroit sûr ?» demanda Siona.
« Oui, » fit la truitesse sur le même ton que la première fois. Siona se tourna vers Idaho.
« Ordonnez-lui de nous conduire à Goygoa. »
Sans savoir pourquoi il obéissait, Idaho répéta « Conduisez-nous à cet endroit. » Inmeir se retourna alors, et son visage carré, que le Duncan avait cru incapable de refléter une émotion quelconque, donnait maintenant tous les signes d'un trouble intense. Ses lèvres grimaçaient, et un spasme nerveux agitait le coin de son œil droit.
« Pas Goygoa, mon capitaine, » protesta-t-elle.
« Il y a de bien meilleurs. L'Empereur Dieu vous a-t-il ordonné de nous conduire à un endroit particulier ?»
coupa Siona. Les yeux d'Inmeir brillèrent de colère, mais elle répondit en évitant de regarder celle qui l'avait interrompue.
« Pas exactement, mais... dans ce cas, nous nous poserons à Goygoa, » décida Idaho.
Inmeir reporta rageusement son attention sur les commandes de l'Orni, et Idaho fut projeté contre Siona tandis que l'appareil s'inclinait avant d'amorcer sa descente vers une trouée circulaire nichée au milieu des collines vertes. Par-dessus l'épaule d'Inmeir, Idaho observa leur lieu de destination. Au centre de la trouée était un village dont les maisons étaient construites avec la même pierre noire que les murets des alentours. Il y avait des vergers sur les hauteurs du village, des jardins en terrasse qui s'élevaient graduellement jusqu'à un petit col où l'on voyait glisser des faucons, portés par les premiers courants ascendants de la journée.
« Qu'est-ce que c'est que ce Goygoa ?» demanda Idaho en se tournant vers Siona.
« Vous verrez. »
Inmeir entama sa descente à basse altitude et les posa sans heurts au milieu d'une clairière plane en bordure du village. Une truitesse ouvrit la portière du côté du village. Aussitôt, les narines du Duncan furent assaillies par un mélange d'arômes entêtants, herbes broyées, déjections animales et fumée âcre. Il se laissa glisser à bas de leur nid et leva les yeux vers une rue du village où les gens sortaient des maisons pour venir voir les nouveaux arrivants. Idaho remarqua une femme âgée, vêtue d'une longue robe verte, qui se penchait pour murmurer quelque chose à l'oreille d'un jeune garçon. Immédiatement, l'enfant s'éloigna en courant vers le haut de la rue.
« Cet endroit vous plaît ?»
demanda Siona en descendant à son tour. « Il a l'air agréable. » Siona se tourna vers Inmeir et les autres truitesses qui les avaient rejoints sur la clairière.
« Quand rentrons-nous à On ?»«
Pas vous, » dit Inmeir.
« J'ai ordre de vous conduire à la citadelle. Le capitaine rentrera avec nous. »«
Je vois, »
fit Siona en hochant la tête.
« Quand partons-nous ?»«
Demain, à la première heure. » Il faut maintenant que j'aille voir le chef de ce village pour la question du logement. Inmeir s'éloigna de sa démarche brusque en direction de la rue en pente.
Goygoa, murmura Idaho. un nom étrange. Je me demande à quoi cet endroit pouvait ressembler à l'époque de Dune.
Je peux vous renseigner, dit Siona. Sur les anciennes cartes, le nom qu'il porte est Shulok, ce qui signifie le lieu hanté. D'après l'histoire orale, de grands crimes ont été commis ici avant l'extermination de toute la population.
Jakurutu, murmura Idaho, qui se souvenait des vieilles légendes des voleurs d'eau.
Il regarda autour de lui, cherchant les vestiges des dunes et des montagnes. Mais il ne vit rien. Rien d'autre que deux hommes âgés au visage placide qui revenaient avec Inmeir. Les vieillards étaient vêtus de chemises en haillons et de pantalons bleus à la couleur passée. Ils allaient pieds nus.
« Cet endroit vous dit quelque chose ?» demanda Siona.
« Juste un nom, dans une légende. »
« On dit qu'il y a des fantômes, mais je n'y crois pas. »
Inmeir se rapprocha du Duncan après avoir fait signe aux deux vieillards de demeurer en arrière.
« Les logements sont frustes, mais je pense qu'ils conviendront, » dit-elle.
Puis elle ajouta en se tournant vers Siona, « À moins que vous ne désiriez vous installer dans une résidence privée. »
« Nous déciderons plus tard, » répondit Siona.
Elle prit le bras du Duncan.
« Le capitaine et moi, nous aimerions nous promener un peu dans les rues de Goigoa pour voir ce qu'il y a d'intéressant. »
Inmeir remua les lèvres comme pour dire quelque chose, mais elle demeura silencieuse. Idaho se laissa guider par Siona et ils passèrent devant les deux hommes du village qui les observaient curieusement.
« Je vais vous faire accompagner par deux gardes, » leur cria Inmeir.
Siona s'arrêta et se retourna.
« Les rues de Goigoa ne sont donc pas sûres ?»«
Il ne se passe jamais rien ici, »
fit l'un des deux hommes.
« Dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'escorte, » dit Siona. « Faites plutôt garder l'ornie. »
De nouveau, elle guida Idaho vers le village.
« Très bien, »
fit Idaho en dégageant son bras.
« Expliquez-moi maintenant ce que c'est que cet endroit. »«
Il est probable que vous allez le trouver très paisible. » »«
Il ne ressemble pas du tout à l'ancien Shulok. Les gens y sont très pacifiques. »
Vous avez une idée derrière la tête? Qu'est-ce que c'est?
J'ai toujours entendu dire que les Golas posaient beaucoup de questions. Mais moi aussi, je suis curieuse.
Hein?
Comment était-il à votre époque, l'homme Leto?
Lequel?
C'est vrai, j'oublie qu'il y en a eu deux. Le grand-père et notre Leto. Mais je voulais parler d'une autre, naturellement.
C'était un enfant. Je ne sais rien d'autre.
D'après l'histoire orale, une de ses premières fiancées était originaire de ce village.
Fiancée?
Je croyais que...
Du temps où il avait encore une forme humaine. C'était juste après la mort de sa sœur, avant qu'il commence à se métamorphoser en ver. Toujours d'après l'histoire orale, les fiancés de Leto ont disparu dans le labyrinthe de la citadelle impériale et on ne les a plus jamais revus, excepté sous forme d'enregistrement holo. Cela fait des milliers d'années qu'il n'a plus eu de compagne.
Ils étaient arrivés sur une petite place au centre du village. Un espace carré d'une cinquantaine de mètres de côté, avec un bassin d'eau pure au milieu. Siona alla s'asseoir sur le rebord du bassin en invitant du geste Idaho à l'y rejoindre. Le Duncan préféra regarder d'abord le village, où il sentait la présence des gens qui les pillaient derrière leurs rideaux et où les enfants dans les rues chuchotaient en les montrant du doigt. Il se rapprocha de Siona, mais demeura debout devant elle. « Quel est cet endroit ?»«
Je vous l'ai dit, parlez-moi de Muad Dib. »
C'était le meilleur ami qu'un homme puisse avoir.
Ainsi, l'histoire orale ne ment pas. Mais elle appelle Desposini le califat de ses héritiers. Et ce terme a une sonorité inquiétante.
« Elle me provoque, » se dit Idaho.
Il se permit un sourire contraint, tout en s'interrogeant sur ses motivations. Elle semblait attendre un événement important qui l'emplissait d'angoisse, ou même de peur, mais aussi d'une sorte de satisfaction, c'était évident. Tout ce qu'elle disait à présent n'avait pour but que de meubler les instants jusqu'à... Un bruit de pas léger et précipité interrompit sa méditation. Idaho se tourna pour apercevoir un gamin d'une huitaine d'années qui débouchait en courant d'une ruelle adjacente. Les pieds nus de l'enfant soulevaient de petits nuages de poussière, tandis que derrière lui, quelque part dans la ruelle, montait le cri d'une femme, comme une lamentation de désespoir. L'enfant s'arrêta brusquement à 10 pas
et fixa Idaho d'un regard avide, à l'intensité gênante. Idaho lui trouva un air vaguement familier avec son attitude résolue, ses cheveux bruns frisés, ses pommettes hautes et le pli horizontal qui reliait les sourcils. Un visage encore inachevé, mais qui révélait ce que serait l'homme. Il portait une salopette d'un bleu délavé témoignant d'innombrables lessives, mais d'une qualité excellente. Sans doute l'étoffe était-elle en fibre pongy, tissée de telle manière que même les bords usés ne pouvaient s'effranger.
« C'est pas toi, mon papa !» dit l'enfant.
Il fit brusquement volte-face, se remit à courir et disparut au détour de la ruelle.